Bonjour à toutes, bonjour à tous, Cédric Cyr, bonjour. Vous êtes l'auteur de Survivante, un thriller narrant le parcours de quatre femmes qui ont chacune eu affaire à un bourreau et qui s'en sont donc sorties. Elles sont réunies par l'une d'entre elles, Kate, psychologue.
Thérapeute, ouais.
Ouais,
Ouais.
pardon. Et leur propose donc de se venger. Et là, finalement, bah, ça va pas être si simple. Quelle a été l'idée de départ? Pourquoi quatre survivantes et surtout pourquoi quatre femmes?
Alors, bonjour à tous et à toutes déjà. Et ouais, en fait, je suis donc un fan de films d'horreur à la base. C'est le cliché classique de la dernière survivante, la final girl des films d'horreur, qui m'a inspiré le sujet initialement. Je me suis dit, que se passerait-il si quatre jeunes femmes ayant survécu à des massacres, comme dans les films d'horreur, en fait, il y a toujours une demoiselle qui s'en sort, se réunissaient autour de l'une d'entre elles, donc effectivement qui est psychologue et qui fait un groupe de parole, et se rendaient compte qu'elles étaient capables de se venger. Et pourquoi quatre jeunes femmes? C'est parce que ben, les personnages me sont arrivés comme ça. Enfin, il y a ce côté magique des idées qui arrivent, et elles représentent en fait à elles quatre, j'espère, un panel très représentatif des jeunes femmes. Il y a la mère de famille, il y a la demoiselle qui refuse de grandir, il y a la beauté qui a été blessée, qui a des séquelles au visage, elle a perdu un œil alors qu'elle est très très jolie. Enfin, j'avais envie d'avoir des personnages très humains et qui pouvaient aussi avoir des réactions totalement différentes aux mêmes situations, pour que ce soit très très immersif pour le lecteur.
Concernant donc justement la structure du roman, ce n'est absolument pas présenté de manière chronologique. On a des chapitres qui sont sous-titrés dans les souvenirs d'eux et du coup on découvre l'histoire et le parcours de certains personnages. Comment en fait, moi je vous imagine devant un schéma avec des flèches partout et vous dire voilà, à la fin j'ai toute mon histoire, il faut dans quel sens je les mets.
Alors c'est un peu ça. Mon bureau ressemble à celui d'un psychopathe de film hollywoodien, où il y a des choses sur les murs, des photos, des post-it, des tableaux blancs, des tableaux en liège où j'ai punaisé des post-it, ce genre de choses, pour représenter mon roman. Mais la structure elle est assez simple en fait, puisque je fais une partie par personnage, et j'avais envie d'explorer le passé de ces quatre jeunes femmes, qui deviennent cinq à un moment donné. Il y a aussi des méchants, qui sont des mecs qui font du mal aux femmes, malheureusement, comme c'est le reflet, les romans sont le reflet de la société. Et nous vivons encore dans une société totalement misogyne, où les femmes sont toujours des victimes. Et j'avais envie d'aborder ça. Et donc, pour écrire et poursuivre la structure, je mettais sur les murs de mon bureau, pas à pas, tout ce que j'avais dit, et j'essayais de regrouper, en fait, par blocs, pour avoir une partie du roman qui aborde le passé précis d'une personne et qui amène à s'interroger sur le passé d'autres personnes, et tout est lié comme des pièces de puzzle.
Oui.
Et c'est tout le jeu, parce que c'est vraiment très ludique l'écriture, malgré les horreurs que je raconte, de la construction pour qu'à la fin ça fasse un édifice qui tienne la route, et un voyage qui soit hyper satisfaisant pour le lecteur, où toutes les questions, pardon, trouvent leur réponse, et toutes les pièces du puzzle, voilà, sont à la place à la fin, et il n'y a plus de questions en suspens. Je referme toutes les portes que j'ouvre au fil du roman. Et ça, c'est le plan sur les murs de mon bureau qui me permet de le visualiser en cours d'écriture.
Et donc justement, pour établir ce plan, il y a donc tout plein de personnages, il y a les quatre protagonistes principaux, mais comme vous le disiez, il y a un autre groupe, on peut pas trop en dire plus,
On va
mais
éviter de
voilà,
spoiler.
c'est ça. Et puis on a des personnages annexes qui deviennent quand même super importants. Et est-ce que pour chacun d'entre eux, vous avez fait leur histoire de A à Z, et puis après justement pour pouvoir les entremêler?
Oui, tout à fait. En fait, pour moi, tous mes personnages existent. Alors, c'est de la fiction, hein. Je suis le seul
Oui.
maître à bord. On dit toujours que les personnages ont leur propre vie et nous échappent, mais en réalité, c'est quand même l'écrivain qui décide de tout. Et en revanche, ce qui est vrai, c'est que pour moi, tous les personnages, je les voulais profondément humains. Je voulais pouvoir m'attacher à chacun des personnages, les gentils comme les méchants, comme les ordures. Il y a des mecs, voilà, les virilistes, qui sont à poil devant leur miroir en train de faire gonfler leurs muscles. C'est pareil, des reflets des certaines dérives de la société actuelle. Et tous ont un passé très fouillé qui est pas forcément décrit dans le roman, mais moi, dans mes fiches et dans ma tête, j'avais exactement toute leur vie. J'avais fait des chronologies de leur biographie à chacun pour que tout soit cohérent avant d'écrire. Et pour moi, ils existent, ouais, réellement. Mais et c'est la magie de l'écriture, c'est de juste par petits bouts, par petites pièces de leur vie, laisser suggérer que ça va au-delà et que tout paraisse cohérent et crédible. Et ça, ces ellipses, on les fait au fil de l'écriture, parce que je coupe tout ce qui dépasse, parce que mon but, c'est que le lecteur tourne les pages à toute vitesse.
Oui,
Et cette soif de
ça
savoir,
marche.
merci, de se dire que va-t-il se passer. Et donc, j'essaie de donner les infos les plus importantes et de tout ce qui pourrait faire ralentir l'intrigue, je l'enlève. En gros, si je peux le couper et que ça change pas, je l'enlève. Si je le coupe et qu'on comprend plus l'histoire, je le garde. C'est
D'accord.
mon secret d'écriture.
Alors, c'est une histoire aussi de vengeance, on l'aura bien compris. Et une fois la vengeance accomplie, en fait, personne n'est satisfait. Finalement, elles doutent beaucoup, elles se sentent pas du tout apaisées. Et puis, donc, est-ce que ce serait donc la morale de l'histoire? Il est inutile de se faire justice soi-même?
Alors la morale, je la laisse au lecteur. Chacun se fait la morale qu'il veut à sa grille de lecture. Je pose des questions, je mets des personnages en situation extrême avec des dilemmes moraux importants, des personnages ordinaires à qui il est arrivé des horreurs et qui ont la possibilité de se venger, ce qui est absolument pas bien. Hein. Je cautionne
Oui.
absolument pas la justice, hein. Enfin pas par soi-même. Et en même temps, c'est le côté aussi défouloir de « et si », c'est le propre des histoires, hein, de prendre des questions humaines et se dire « et finalement, et si on pouvait faire ça, et si on faisait ça, quel serait le résultat? Est-ce que ce serait pas pire? Est-ce que parfois le remède est pas pire que le mal initial? Et est-ce qu'en faisant ça, en croyant réparer les torts et en empêcher aussi que ces monstres fassent d'autres victimes, finalement, est-ce qu'elles ont pas créé quelque chose de pire, hein? Et je joue avec ces questions-là. J'essaie de le faire de manière divertissante. Je veux absolument que le lecteur, comme je me disais, tourne les pages et ait peur pour chacun des personnages, l'un après l'autre. Quand les personnages prennent des décisions que le lecteur, enfin, n'aurait jamais prises, qui sont moralement injustifiables, j'ai envie que le lecteur soit tellement investi qu'il ait envie de se prendre les personnages par les épaules pour les secouer en leur disant « Mais non, ne fais pas ça, c'est une énorme connerie. Ça peut que très très mal se finir. » Et tout ça, voilà. Quand j'écris, je tâtonne jusqu'à trouver, j'espère, le ton juste pour qu'on y croie, en fait. Mais je réponds pas aux questions. Voilà, je suis pas un donneur de leçons. Je suis là
Ouais.
pour divertir. Voilà, surtout pas pour faire de la morale à qui que ce soit.
Néanmoins, pour avancer, en fait, on l'a bien compris dans votre roman, dans Survivante, dans la vie, il faut éviter les secrets, les non-dits, ce serait peut-être ça la solution. C'est une étape difficile à franchir pour beaucoup des personnages aussi dans le roman.
Totalement, parce qu'en plus dans le roman, il y a quatre jeunes femmes qui sont jurées de se dire la vérité, d'être justement une sororité, de se faire confiance, et on se rend compte assez vite que chacune cache des choses et n'est pas totalement honnête avec les autres. Et bien comme dans la vie, en fait, les romans sont vraiment le reflet de notre société, et c'est pour ça que je pense qu'on a tous besoin d'histoire, parce qu'on se retrouve, ça nous permet de mieux comprendre nos propres schémas, et j'espère d'avancer aussi dans la vie.
Vous avez donc plusieurs scénarios donc qui sont parfois très très durs, hein, ça commence dès les premières pages. Est-ce que ce sont des choses que vous avez entièrement imaginées ou est-ce que vous avez trouvé quelque inspiration quelque part?
Dans l'ensemble, c'est uniquement de l'imagination, mais qui repose sur des choses plausibles. Aussi tiré par les cheveux que cela puisse paraître parfois, je me renseigne beaucoup auprès des forces de police, auprès des médecins, quand il y a des blessures par arme blanche, comment on se recoupe, ce genre de choses, pour que tout sonne juste. Mais évidemment, c'est la fiction, c'est romanesque. J'adore forcer le trait, j'adore en faire des tonnes. Je compare souvent ce que j'écris au cinéma de Tarantino, où vraiment qui est plus
Là, je
rock
pensais
nature.
un peu à Kill
Voilà.
Bill à un
Voilà, c'est
moment.
exactement ça. C'est caricatural, mais en même temps, c'est dans la caricature qu'on peut définir des positions humaines hyper extrêmes. Et en plus, j'adore avoir plein de, comment dire, mettre des gens à mort dans mes romans ou leur faire affronter des épreuves physiques hyper dures. Mais tout ça sont des métaphores de leur voyage intérieur et psychologique qu'ils traversent et qui est essentiel, en fait.
Il y a de l'humour aussi dans ce que vous
Tout à fait.
proposez. Justement, même ça devient presque caricatural, là, comme on le disait. On ne peut pas raconter la scène, évidemment.
Mais j'adore la surenchère, voilà. Et
Ouais.
effectivement, les gens qui sont un peu rebutés par ou les films qui en font des tonnes, ou les ronds, il faut pas me lire. Mon agente serait horrifiée si elle m'entendait parler. Mais non, mais c'est voilà, mon but, c'est vraiment, c'est très ludique. Je prends le lecteur par la main, je lui dis, on va faire un super voyage. Tu vas en prendre plein les yeux, tu vas vivre des émotions hyper intenses, et ça va passer effectivement par des grands morceaux de bravoure, comme on disait à l'école, où les personnages vont traverser des choses beaucoup plus grandes que nature.
Vous abordez donc Survivante à la manière donc d'un thriller, encore une fois. Est-ce qu'il y a des choses que vous vous interdisez de raconter, des atrocités que vous serez pas. Enfin, est-ce qu'il y a un pas que vous refusez à franchir? Parce que vous, quand vous écrivez, forcément, vous devez vous projeter des images. Il y a quand même, c'est pas toujours facile.
J'en reviens à ce que je disais, j'écris pour divertir, donc si c'est, enfin, je m'interdis de dégoûter le lecteur ou d'aller trop loin, et en plus c'est le problème quand je me renseigne auprès de la police ou la gendarmerie par exemple, ils me racontent des choses tellement horribles que je me refuse à aborder des faits divers qui sont beaucoup plus sordides que tout ce qu'on pourrait imaginer, et mon but c'est vraiment que les personnages soient en danger, qu'on ait peur pour eux, mais jamais je me permettrai d'aller trop loin ou d'être, parce que si le lecteur est dégoûté, il va fermer le bouquin. Il faut que ça reste du plaisir, voilà mon moteur d'écriture. Et donc moi-même, je sais que ouais, il y a une limite que je franchirai pas. En revanche, et je reviens aussi à ce que je disais, si c'est utile pour l'histoire, pour la compréhension de la psychologie des personnages, je vais aborder des scènes un peu dures,
ouais.
mais jamais elles seront gratuites. Si une scène, y compris de séquestration ou de mutilation, est là, c'est parce qu'elle montre un ressort narratif, elle montre une évolution psychologique d'un personnage, que si on n'avait pas eu cette scène, on ne comprendrait pas pourquoi le personnage réagit plus tard comme il le fait.
Juste une question très rapide, parce qu'on va manquer de temps. Concernant la bande-son, je dirais, du livre, donc moi j'ai eu la bande BO de Barry Lyndon, du coup, dans la tête, avec la Saraband. Vous avez une dent contre Depeche Mode?
J'adore Depeche Mode. Je suis fan de Depeche Mode depuis une quarantaine d'années. Je commençais à écouter ça au début des années 80, ça va être 83 à peu près, quand j'avais une dizaine d'années, et j'écoutais ça en boucle. Et je suis resté très fan, et leur dernier album, Memento Mori, est incroyable. Et j'écoutais cet album-là en écrivant. C'est pour ça que naturellement, j'ai fait une citation de Depeche Mode en début de roman. Et à la fin, c'est un groupe de métal que je cite.
Nervosa,
groupe brésilien composé uniquement de femmes. Et en plus, le morceau que je cite est un morceau qui parle des violences faites aux femmes. Et je trouvais qu'il refermait parfaitement mon livre.
Cédric Cyr, merci beaucoup. On vous recevait pour Survivante, paru aux éditions Michel Lafon.
Merci infiniment.